Bonjour, je suis Pascal Solière et c'est l'épisode 37 de ITcast du 16 décembre 2016. ITcast revient aujourd'hui avec une nouvelle formule, toujours IT mais plus ouverte sur les communautés, et surtout avec un nouvel animateur, Maxime Rastello. Nous reviendrons en janvier sur nos ambitions pour cette nouvelle formule, mais en attendant, nous avons un invité qui est toujours le bienvenu, Fabien Dibault, qui nous parle aujourd'hui de la communauté du French PowerShell User Group et de ses meet-ups. Maxime nous parle aujourd'hui des nouveautés d'une de ses spécialités, l'identité hybride, avec Azure Active Directory. Quant à moi, je vous parlerai d'un projet open source mené avec Accenture, le portage dans Azure de leur plateforme DevOps. Tout de suite, on retrouve Maxime et Fabien. Bonjour à tous. Donc pour ce nouvel épisode, je suis en ligne avec Maxime Rastello. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Maxime, tu es architecte infrastructure chez Azeo et MVP Enterprise Mobility, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et donc Maxime, on annonce aujourd'hui ensemble une refonte de ce podcast ITcast, refonte qu'on va faire conjointement tous les deux.
Oui.
Et qui va consister à être un petit peu à revenir dans un cycle régulier d'épisodes et puis une co-animation. On va essayer d'animer ça tous les deux en fonction de nos disponibilités. Alors j'espère qu'on va pouvoir réussir à se dégager tous les deux régulièrement un vendredi sur deux pour faire ces épisodes. Et en tout cas, on commence aujourd'hui avec un nouvel épisode pour lequel on a invité, comme on va essayer de faire régulièrement, hein, Maxime, tu es d'accord ? On va essayer d'inviter des invités régulièrement et variés.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans la communauté qui seraient intéressées de remettre en avant la partie IT Pro. Et donc, je pense qu'on va quand même avoir pas mal d'invités de la communauté qui seront prêts à nous aider sur ces ITcast.
Donc tu as dit le mot, hein, tu as dit le mot communauté. Donc c'est vraiment l'esprit de cette V2, si on veut, ce reboot du podcast, de travailler beaucoup plus et d'inviter beaucoup plus la communauté autour des technos Microsoft, mais pas que. Hein, on n'est pas sectaire dans notre domaine. Autour de l'IT, autour de l'infrastructure et autour du DevOps, enfin tous les sujets qui nous passionnent au quotidien. Et donc aujourd'hui, Maxime, on invite Fabien Dibault. Fabien, tu es là ?
Bonjour.
Alors
ouais,
Fabien,
bonjour à vous deux.
Donc tout le monde connaît Fabien, hein, mais je le rappelle quand même, Fabien est architecte infrastructure chez S2i, MVP Cloud and Data Center Management.
Ouais, anciennement PowerShell.
Anciennement PowerShell, ouais. Mais ça n'empêche que PowerShell, tu en fais encore, et d'ailleurs tu vas nous parler aujourd'hui de quoi ?
Un truc qu'on a mis en place depuis le mois de septembre, c'est le French PowerShell User Group. Voilà.
Ok.
On rentrera peut-être dans les détails un peu plus tout à l'heure, j'imagine.
Exactement. Et toi, Maxime, tu vas nous parler d'un sujet technique ?
Alors moi, effectivement, j'adore tout ce qui touche à l'identité, notamment Azure Active Directory. Donc il y a pas mal d'annonces qui ont été faites depuis septembre. Donc voilà, ce sera l'occasion de revenir sur certains sujets assez intéressants, notamment au niveau de l'authentification.
Et moi, je vous parlerai également d'un petit sujet un petit peu technique qui concerne le portage dans Azure d'une plateforme DevOps qui avait été faite par notre partenaire Accenture. Et ça a été l'occasion d'un travail commun avec eux de quelques semaines et l'occasion également de quelques présentations publiques que j'ai animées avec mes amis d'Accenture. Donc en attendant de démarrer tous ces sujets, ben parlons un petit peu d'actualité. Maxime, il y a une grosse actualité qui va avoir lieu en janvier avec
le
fameux MS Cloud Summit. Ouais.
C'est ça, donc c'est un événement qui regroupe pas mal de communautés, hein, qui va, sur deux jours, on va avoir beaucoup de sessions, sur différents sujets. Alors, au niveau de la communauté, on a la communauté Agile.net, la communauté AOS, la communauté AzugFR, la communauté CMD et la communauté GUS. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de sujets assez variés autour de différents thèmes sur le cloud Microsoft, sur les infrastructures hybrides et sur pas mal de sujets d'actualité. Donc en tout, on a 7 tracks, 70 sessions et pas mal de participants d'attendus. Donc c'est une conférence qui va se dérouler sur 2 jours, le 24 et le 25, avec des pré-conférences le 23 janvier. Donc au final, on aura 3 jours d'événements sur Paris.
D'accord, c'est à Paris, je crois que c'est à l'ancien Cap 15, j'ai oublié le nouveau nom, c'est New Cap ou quelque chose comme ça, non?
C'est ça, oui. Oui, de mémoire, ça s'appelle New Cap.
Près du
New Cap,
pont.
tout à fait, ouais.
Près de la Tour Eiffel. Donc c'est un lieu assez sympa, qui a été refait avec vue sur la Tour Eiffel. Donc, je pense qu'on va être très bien pour ces
Et les
événements-là.
inscriptions, elles sont ouvertes déjà ou
Tout est déjà ouvert. Le site, c'est mscloudsummit.fr et vous pouvez déjà vous inscrire et acheter vos places, parce qu'il y a une participation de 15 euros par jour. Donc voilà, vous pouvez déjà acheter vos places pour le jour 1 et le jour 2. Et aussi réserver des places pour les pré-conférences qui seront le 23 janvier.
Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est organisé par des communautés. Hein. Microsoft n'a rien à voir dans l'organisation de cette conférence. Bon, on va participer un petit peu. On va participer en tant que sponsor, je pense, et puis avec quelques speakers. Vous parlez, vous avez des conférences tous les deux dans cet événement?
Je parle pour moi, ouais, Fabien
Ouais.
Thibault. Ouais, j'ai une session sur Docker en fait avec William Bordès et Julien Coriolan, que tu dois connaître un petit peu, Pascal,
Un petit peu.
qui est un collègue à toi. Donc ouais, on va parler nous de comment Docker ça a permis d'aider les équipes de dev et d'ops à parler mieux ensemble, à parler le même langage et avoir un but commun.
Ouais, j'ai bien
Voilà,
aimé
qui
le
s'appelle
titre de
Docker.
votre session. Ouais.
Docker dans la vraie vie.
Docker dans la vraie vie, ouais, exactement. Et la question qu'on posera, c'est et alors en prod, t'en connais des clients qui ont mis ça en prod?
Ça dépend sur du Linux ou sur du Windows.
Oh bah aujourd'hui, je pense que s'il y a de la prod, ce sera plutôt du Linux.
Ouais. En prod Linux, ouais, j'en connais, ouais, j'en connais. Sur Windows, c'est pas assez mûr, mais sur Linux, on a quelques clients, nous, chez S2I, qui font des choses sympas sur Docker. Alors, je peux peut-être pas trop les citer là, parce que
Peut-être pas.
c'est parler un peu de l'infra des gens, mais on a des très gros clients qui ont basculé une partie de leur prod sur Docker. On parle d'un site web qui est dans les 10 plus consultés en France, qui bascule sur une infra Docker haute disponibilité avec du Swarm. Ils font des trucs assez sympas. Je sais qu'il y a d'autres gros sites européens, par exemple Booking, qui sont en train d'étudier Mesos, donc Mesos Marathon, pour mettre en place de l'orchestration de conteneurs pour une partie de leur prod aussi. Je ne sais pas où ils en sont, mais il y a des très gros sites qui le font. Et on a de plus en plus de demandes, nous, de POC, de présentations, d'études et d'accompagnement sur de la R&D, sur de la recherche, pour amener Docker en production. Ça commence dans la tête des décideurs, ça commence vraiment à être une techno éprouvée et fonctionnelle pour eux. C'est vraiment une solution, c'est plus juste des startups avec des barbus dans leur coin qui disent tiens, allez, nous on s'en fout, on part là-dessus, c'est ce qu'il faut, quoi. Non, non, c'est vraiment. Ça commence à avoir un certain poids dans les discussions avec la DSI de grands groupes français.
D'accord, donc session super intéressante. Donc tu m'as dit avec William Board, hein, avec
Ouais,
Julien et
et
William Board. Donc
Julien.
deux retours d'expérience avec William et toi et la caution technique de Julien, ça sera parfait. Et en plus,
Ah, c'est
donc.
ça, voilà. Julien sera plutôt sur la partie développement et William et moi sur la partie opérationnelle. Tout ce qui est contrainte qu'on peut avoir sur les infras dont les devs ont strictement rien à faire.
D'accord. En plus, j'ai cru voir quelque chose sur le site de mscloudsummit.fr, c'est que les sessions duraient 1 heure. C'est ça?
C'est ça.
Ouais.
C'est
Alors,
vrai, hein?
techniquement, on sera plus. Ouais, 10 minutes, enfin 50 minutes avec peut-être 10 minutes de questions-réponses en gros. Mais voilà,
D'accord.
le contenu globalement rentrera dans 1 heure, je pense. Après, ce sera peut-être soumis à évolution, parce que le planning qui est proposé sur le site sera peut-être amené à bouger selon les aléas de l'événement.
Ok, d'accord.
J'ai vu que Pascal, tu avais une session aussi, toi.
Donc moi j'ai eu une session, j'ai été branché par notre ami Jean-François Béranger. Béranger, pardon, si j'écorche son nom, il va pas être content.
Bah, c'est un Marseillais.
Ah, pas de guerre de région. Donc Jean-François m'a proposé de parler avec lui des 5 raisons qui vont vous faire passer ou aimer, je ne sais plus le terme exact, Windows Server 2016. Donc la difficulté...
Adopter.
Ouais, adopter. Et la difficulté, ça va être de trouver seulement 5 raisons, quoi, à mon avis. Mais bon. Donc tu en as
cité. Maxime, toi, tu nous parles... T'as une session d'annoncer?
Alors
déjà,
moi, j'en ai deux, en fait. J'ai une session avec Nicolas Bonnet, le deuxième jour, sur la suite Enterprise Mobility et Security. Le but, c'est de faire un tour d'horizon sur la suite, expliquer tout ce que contient cette suite. Globalement, c'est des produits qui sont basés sur la sécurité et la mobilité, hein, comme son nom l'indique. Donc voilà, une session là-dessus et une autre session... qui est plus orienté justement gestion de l'identité dans Azure, sécurité, monitoring, un petit peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui, quoi.
Ok. Cool. Donc est-ce qu'il y a d'autres actualités, Maxime, dont tu voulais parler? Peut-être la communauté CMD, non?
Ouais, c'est ça. Donc la communauté CMD, tu avais reçu Jean-François au dernier ITcast. Mm-hmm. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un groupe Meetup. Et on va très, très bientôt lancer justement les premiers meetups sur la région parisienne. Donc après, les sujets restent encore à définir, mais voilà, on va vraiment mettre un coup de collier sur la région parisienne pour pouvoir organiser de manière régulière des meetups sur la partie cloud mobility and data center.
Ça veut dire que vous pensez qu'aux Parisiens dans votre meetup?
Non, mais bon, il faut bien commencer par un endroit, mais après on n'est pas ouvert, on n'est pas fermé, je veux dire, à créer des meetups en région. Hein. Au contraire, hein. On recherche des gens qui seraient prêts à nous aider pour faire la même chose en région, sans problème.
Ouais, mais online, du coup, c'est pas possible pour vous, c'est pas une option actuelle.
Bah, les meetups, c'est quand même plus des rendez-vous physiques.
Ouais, je suis d'accord.
Donc le but, ouais, c'est quand même de se rencontrer en vrai, de pouvoir discuter dans une salle le soir après le travail, quoi.
Et boire des bières, quoi.
Et boire des bières, potentiellement.
Donc rendez-vous sur meetup.com/quelque chose/
l'URL est trop longue, donc je pense qu'on vous la communiquera.
Voilà, je la mettrai sur l'article. Donc, après cette tournée d'actualité, on va passer au sujet de Maxime. Hein. Donc, tu voulais nous parler d'Azure Active Directory et de l'actualité autour de ça. D'actualité super intéressante, d'ailleurs, cette semaine.
Ouais, tout à fait. Alors, et beaucoup d'annonces depuis septembre. Pas mal d'évolutions aussi côté licensing chez Microsoft, notamment sur Azure Active Directory. Donc, il faut savoir qu'avant, on avait une seule suite pour la partie premium, et donc depuis le 15 septembre, la partie Azure Active Directory Premium, qui est censée donc être le niveau de licensing le plus élevé et qui apporte le plus de fonctionnalités, donc cette partie premium a été scindée en deux. Donc on a la partie P1 et P2. Globalement, ce qui change entre la P1 et la P2, c'est l'introduction de deux produits qui sont vraiment orientés sur le monitoring et la sécurité des identités. C'est Azure AD Identity Protection. Donc ça, c'est un outil qui nous permet de monitorer ce que font nos utilisateurs. Et lorsqu'un utilisateur a un comportement à risque, on va pouvoir prendre des actions de remédiation sur ce compte. Typiquement, lui forcer l'activation du MFA à sa première connexion ou de forcer son changement de mot de passe. Mmh. L'autre produit, c'est Azure AD Privilege Identity Management. Et donc ça, c'est aussi vachement pratique. C'est disponible dans le nouveau portail. PIM. Mmh. C'est ça, c'est le petit nom du produit, parce que c'est vrai que souvent c'est assez indigeste à prononcer. Et donc le but, c'est d'attribuer en fait des permissions administrateurs, des rôles d'administration dans Azure AD de manière temporaire, entre 30 minutes et 72 heures max. Donc le but, c'est qu'un utilisateur soit éligible, par exemple, pour être administrateur Exchange, et ensuite il va activer son rôle d'administrateur Exchange à la demande et il va pouvoir l'utiliser entre 30 minutes et 72 heures. Et après ce laps de temps, et ben, il perd son droit d'utiliser en fait le rôle et devra réactiver ce rôle en utilisant le MFA. Donc voilà, c'est un niveau de sécurité supplémentaire, ce qui permet de ne pas avoir des droits d'administration dans Azure et Office 365 ad vitam aeternam. Voilà, donc ça, c'est les deux produits sécurité qui sont introduits dans la partie premium P2. Après, on a d'autres annonces qui ont été faites il n'y a pas longtemps, notamment deux public previews qui ont été annoncés par Microsoft. C'est l'Azure AD Pass-Through Authentication. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça vous dit quelque chose?
Oh oui.
Ouais, ça me parle et ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool, ça.
Ouais.
Ouais, tout à fait. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? Déjà, il faut regarder ce que font, enfin, les opportunités, les possibilités d'authentification actuelles. Si on veut authentifier nos utilisateurs, on a deux choix. Soit on synchronise l'âge de mot de passe avec Azure AD Connect, soit on met en place de l'ADFS. Le problème, c'est que
Dans
certains.
l'hypothèse où on a
Pardon.
un AD sur site,
Dans l'hypothèse où on a un Active Directory on-prem, tout à fait.
voilà, qu'on veut synchroniser avec l'Azure AD.
On veut synchroniser. Après, on a aussi la possibilité de créer les utilisateurs, les groupes directement dans le cloud. Mais disons qu'une entreprise qui a déjà une identité existante va plus se pencher sur la synchronisation des identités. Et après, soit la synchro des hash de mot de passe, soit la mise en place d'ADFS pour faire de l'authent on-prem. Et donc, là où intervient le Pass-Through Authentication, c'est qu'il évite en fait de synchroniser ces hash de mot de passe et il permet de redescendre l'authentification sur l'Active Directory. Alors concrètement, comment ça marche? On installe un connecteur qui au final est installé par Azure AD Connect. Ce connecteur, lui, va permettre de faire un tunnel sécurisé avec Azure Active Directory via le Azure Service Bus en fait. Et lorsque l'utilisateur va taper son login mot de passe dans le cloud, eh bien, une demande d'authentification va être redescendue via ce connecteur sur l'Active Directory. Ce qui permet de vérifier en temps réel que l'utilisateur est activé, que son mot de passe soit bon, que le compte ne soit pas expiré. Et ensuite, l'utilisateur va pouvoir s'authentifier.
Donc, si je te
Donc
comprends
voilà.
bien, c'est les serveurs de Azure AD qui vont se connecter à cette fameuse passerelle on-prem pour passer l'authentification à un contrôleur de domaine. C'est ça le pass-through. On passe à travers le Azure AD pour aller directement vers l'AD
C'est
on-prem.
ça, donc en fait, on va passer par le connecteur qui est installé par Azure AD Connect pour pouvoir contacter le contrôleur de domaine.
Voilà, alors qu'en ADFS, en fait, on répondait au client, c'est pas nous, c'est le serveur ADFS qu'il faut contacter avec telle URL, etc. Et le
Ouais, tout à fait.
client allait se connecter lui-même au STS de l'ADFS.
Exact. Du coup, en fait, avec l'ADFS, comme tu disais, on était redirigé. Donc, au niveau de
Ouais.
l'expérience utilisateur, c'était pas terrible parce que l'utilisateur tapait déjà son login, il essayait de passer au champ mot de passe, il était redirigé sur l'ADFS. Et s'il était sur réseau interne, il était authentifié. S'il était sur réseau externe, il devait à nouveau taper son mot de passe pour être authentifié. Là, grâce au PTA, on fait tout ça via la page de login Azure. Du coup, on n'a pas cette redirection vers l'ADFS qui entraînait, on va dire, une expérience utilisateur. Pas super sympa quoi.
Et quid de la mise en place de cette passerelle? Est-ce que ça suppose d'ouvrir des ports pour...
Alors en entrée, on n'a absolument rien à ouvrir. C'est ça l'avantage de ce connecteur. En fait, c'est un connecteur qui utilise la même technologie que Azure AD App Proxy. Donc en fait, on a juste des flux du serveur Azure AD Connect vers Internet à ouvrir. On n'a aucun flux en entrée comme on doit le faire par exemple avec ADFS.
Donc il n'y a que des avantages.
Que des avantages. Et en plus, donc ça supporte la haute disponibilité, on a la possibilité de déployer plusieurs connecteurs sur différents serveurs, justement en cas de problème sur un des serveurs. Donc voilà, c'est une techno qui est en public preview, qui marche assez bien. Alors bien sûr, il faut que nos clients soient compatibles avec l'authentification moderne pour utiliser ce genre de fonctionnalités-là. Par exemple, si on est sur des vieux clients legacy comme des vieux clients Outlook ou des modules PowerShell qui ne gèrent pas encore ça, il va falloir quand même en parallèle laisser cette synchronisation de mot de passe pour pouvoir faire de l'authentification classique qui n'est pas via l'authentification moderne à DALL. Donc on peut
Ok.
combiner le Pass-Through Authentication et la synchronisation des mots de passe. Et du coup, si un jour le connecteur n'est pas disponible ou tous les connecteurs ne sont plus disponibles, on peut quand même utiliser l'authentification avec la synchronisation des hash de mots de passe. Donc voilà, c'est un peu un système de fallback pour être sûr que tout le monde puisse se connecter. Donc voilà, je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de l'activer sur votre tenant, un tenant de test, hein, bien sûr. Donc pour ça, il faut la dernière version d'Azure AD Connect qui est téléchargeable et installable facilement. Et ensuite, bah, c'est une case à cocher dans la configuration d'Azure AD Connect. Et donc la solution va se mettre en place toute seule. L'autre fonctionnalité qui est assez sympa, c'est le Seamless SSO. Alors là, du coup, c'est une autre fonctionnalité qui va nous permettre de remplacer une infrastructure ADFS existante. Alors comment ça marche en fait? Concrètement, on va réutiliser le ticket Kerberos qui nous est fourni par l'Active Directory pour pouvoir s'authentifier dans Azure STS. Donc, on a une configuration qui est pilotée par Azure AD Connect là encore. On va créer un objet ordinateur avec un SPN dans notre AD. On va définir l'URL d'Azure STS en tant qu'intranet local dans nos navigateurs pour qu'on puisse faire en fait de l'authentification Windows dans Azure. Et une fois que toute cette infrastructure est en place, eh ben on va pouvoir, une fois qu'on est sur le réseau interne de l'entreprise, se connecter comme on le faisait avec un ADFS, c'est-à-dire sans login mot de passe. Donc voilà, c'est assez sympa. C'est un petit peu plus lourd à mettre en place parce que du coup, on a une petite configuration navigateur à pousser, une petite configuration Active Directory, mais qui est pilotée aussi par Azure AD Connect quand on a les bons droits d'administration. Et ensuite, voilà, tout fonctionne. Et donc le but, c'est vraiment de remplacer une infrastructure ADFS qui est assez lourde à mettre en place et à maintenir. Si on veut de la haute disponibilité avec les services Office 365 et Azure, il faut deux ADFS et deux ADFS proxy minimum. Donc ça nous fait une infrastructure à quatre serveurs à maintenir, ce qui est assez lourd. Voilà, c'est une alternative assez sérieuse à ce genre de déploiement à ADFS.
Excellent.
Ouais, ça a l'air, c'est vraiment prometteur.
C'est très prometteur et pour une public preview, ça marche quand même assez bien. Donc il faut savoir que moi, je l'ai testé dans le programme Azure Advisor, qui est un petit peu le programme interne des private preview. Donc on le teste et on remonte du feedback assez régulièrement sur ce produit-là. Donc le PTA, ça fait presque un an hein, qu'on le teste. Donc c'est pas peut-être une fonctionnalité nouvelle pour le grand public, mais en interne, c'est une fonctionnalité qui a assez mûri quand même et qui a été transformée plusieurs fois.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui va pas rester longtemps en public preview, quoi. Ça va passer GA assez
Alors,
rapidement.
justement, il y a certains points à craquer avant le passage en GA, notamment le support de l'alternate login, qui est un vrai sujet pour les grosses entreprises. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque notre UPN on-prem et notre UPN cloud est différent. Donc voilà, la public preview ne gère pas encore ce scénario-là, mais en tout cas, c'est dans la roadmap pour pouvoir le supporter avant le passage en GA.
Ok.
Voilà, et puis d'autres annonces sur toute la partie accès conditionnel. Alors ça, du coup, ça concerne Azure Active Directory, mais au final, toutes nos applications SaaS, hein, que ce soit Office 365 ou une application fédérée avec Azure AD. Donc c'est la possibilité de faire de l'accès conditionnel en fonction de l'appareil. Est-ce que notre appareil est enrôlé dans Azure AD ou dans Intune ou joint à un domaine? Si oui, on va pouvoir lui donner accès à SharePoint Online ou OneDrive for Business, par exemple. S'il ne l'est pas, eh bien, il n'aura pas accès au service. Ça, c'est une fonctionnalité qui était en preview depuis quelque temps et qui est passée en GA depuis peu.
Ok.
L'autre, voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup d'annonces qui ont été faites côté Azure Active Directory. On pourra vous mettre les différents liens qui sont sur les blogs Microsoft et qui retracent un petit peu toute cette actualité-là. Mais une grosse actualité depuis septembre, avec Microsoft a mis un gros coup de collier sur le passage des versions preview en GA, parce que des fois ça peut prendre un petit peu plus de temps. On le voit avec Azure B2B et B2C qui sont quand même en preview depuis un petit moment. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'actualités de ce côté-là.
Tu avais noté également PowerShell, un module
Ouais, tout à fait.
pour Active
Donc
Directory.
là aussi, un nouveau module PowerShell V2 qui remplace en fait les command line. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais en général, quand on voulait par exemple provisionner un utilisateur, on faisait new MSOL user.
Oui.
Maintenant, ça va s'appeler New Azure AD User.
Ah.
Voilà. Bien, il faut refaire tout ce script.
Tout à fait. Alors pour l'instant, le module a la rétrocompatibilité avec les anciennes commandes. Hein. Ne t'inquiète pas. Par contre, en GA, je ne sais pas ce qu'il en sera.
Oui, mais l'installation du module est quand même plus simple que précédemment.
Ouais, tout à fait.
Quoi.
Pour l'installer, du coup, il y a juste à faire install-module name, donc ça s'appelle Azure AD Preview tout attaché. Il va se connecter à NuGet, il va récupérer le package et l'installer.
Il est stocké dans la PS Gallery.
Ouais. Oui.
Et donc, ce nouveau module, il apporte quand même un petit peu plus de fonctionnalités, des améliorations, notamment, on va dire, un meilleur alignement avec l'API Graph, histoire que bah, les commandlets PowerShell et l'API soient un petit peu plus unifiés. On a quelques paramètres de recherche en plus. On peut aussi maintenant, et ça c'est vachement bien, gérer la durée des tokens pour nos applications SaaS, parce qu'avant on avait un token par défaut pour tout Azure Active Directory. Donc maintenant, en utilisant ce module, on va pouvoir faire ça de manière un petit peu plus granulaire. Et d'autres commandlets, donc voilà, qui permettent de gérer l'autorité de certification interne, mettre notre route CA dans Azure AD et gérer les applications SaaS pour pouvoir les pré-provisionner, les configurer, ce genre de choses. Donc je vous conseille de le tester, installez-le, ne l'utilisez pas encore, mais quand même regardez les nouvelles commandlets, effectivement, pour commencer à porter vos scripts vers les nouvelles commandes et la nouvelle convention de nommage. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Je vois que tu avais noté également pour Azure AD Connect le support des dernières versions des produits.
Ah oui, 2016. Effectivement, ouais, tout à fait. Tu m'as bien fait de me le rappeler. Alors, depuis les dernières versions d'Azure AD Connect, ça bouge pas mal hein, quand même en ce moment, mais on va pouvoir installer l'outil de synchro sur du serveur 2016, utiliser du SQL Server 2016 pour exporter. Externaliser la base de données et on a le support d'ADFS 2016 qui est aussi pris en compte, bien sûr le Password Authentication et le Seamless SSO dont je vous parlais. Donc voilà, l'outil est quand même mis à jour assez régulièrement. Petit rappel, DIRSync et Azure AD Sync ne seront plus supportés en mars 2017 ou avril 2017, je ne sais plus. Donc voilà, migrer vers Azure AD Connect, ce sera le seul...
Les migrations de nos clients, quoi.
Ouais, tout à fait, oui. Oui. Il faut vraiment les prévoir dès maintenant, planifier la migration de serveurs. Alors, est-ce que c'est une migration par-dessus, est-ce que c'est une migration side-by-side, ça après, c'est à définir, selon la configuration. Mais il faut déjà prévoir cette migration, d'utiliser Azure AD Connect, qui sera le seul outil de synchronisation supporté. Pareil, donc le connecteur FIM pour Azure AD n'a pas encore été annoncé, mais il sera bientôt déprécié aussi. Donc voilà, Azure AD Connect sera le seul outil de synchronisation supporté.
Okay. Bon, c'est pas une mauvaise chose, hein. C'était un peu la jungle dans les outils de connexion entre les AD locaux et Azure Active Directory. Hein. Pour ceux qui ne connaissaient pas trop, un peu comme moi, dont c'était pas trop le boulot, des fois je me perdais un peu dans tout ça, quoi.
Tout à fait.
Rationaliser un peu ça.
Bon, ben, un beau tour d'horizon de ce qui se passe autour de Azure AD, qui est un sujet important sur la sécurité du cloud. C'est bon, Maxime ? On a fait le tour ?
C'est bon, ben voilà. Si vous voulez plus d'infos, ben, venez aux sessions du MS Cloud Summit en janvier. On en reparlera plus en détail.
Oui, on en reparlera peut-être même d'ici là dans les prochains épisodes.
C'est bien.
Comment ?
Un peu de teasing, c'est toujours bien.
Fabien, tiens, puisque tu parles, est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais il y a 2 ans exactement, le 12 décembre 2014
Je parlais sur un IT Cast.
Voilà. Exactement. Exactement. Ça fait quasiment 2 ans, jour pour jour, que tu étais l'invité du 3e épisode de ITCast.
Voilà. C'est long, ça nous rajeunit pas.
Non, c'est que voilà.
J'espère que j'ai autant évolué que PowerShell a évolué en ces 2 ans.
Oh, oui, je pense. La barbe déjà.
Ouais. Ouais, mais ça c'est parce qu'il fait froid, tu sais, par chez nous. Là.
Ouais.
On me couvre.
Bon, alors Fabien, tu veux nous parler de... du French PowerShell User Group.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est monter un groupe d'utilisateurs PowerShell français, ça a demandé du temps. Tout le monde est très occupé dans la communauté PowerShell et du coup, ça y est, on s'est enfin lancé. On s'est enfin lancé. On a commencé au mois de septembre, hein, sous l'impulsion de François-Xavier Katt, qui a vraiment été leader là-dessus et qui a un MVP PowerShell qui est français mais émigré au Canada et qui a lancé le truc. Et du coup, ça pulse bien. Il y a pas mal de répondants. On est en train de monter une bonne petite communauté. Et c'est assez cool de voir qu'en fait les gens n'attendaient que ça, quoi. On se retrouve sur notre meet-up à avoir 170 inscrits en l'espace de 4 mois, c'est pas mal. Même pas 3 mois d'ailleurs. C'est pas mal. On a aussi monté un Slack qui est assez vivant, dont on donnera l'adresse, je pense, sur la page de l'ITCast après. Voilà, il nous tenait à cœur de monter quelque chose comme ça. Alors, malheureusement, contrairement à la communauté CMD, pour rassembler tout le monde, on a décidé de le commencer online pour l'instant. On fait des réunions Skype une fois par mois, voire 2 fois quand il y a un petit sujet connexe, plutôt sur de la culture G autour de PowerShell plutôt que sur du PowerShell. Mais voilà, on essaie de tenir une session par mois. Pour l'instant, ça marche bien. On a des meet-ups prévus jusqu'au mois d'avril et d'autres dans le pipe qui vont arriver, qui vont être annoncés bientôt. Voilà. Donc, l'idée de cette communauté, c'est d'arriver sur une communauté qui est vraiment sur du. Pas forcément des Français, mais une communauté francophone. C'est-à-dire qu'on a des Belges, on a des Suisses, on a des Québécois, on a même des Néerlandais francophones. On a un peu tout ce monde-là qui est réuni autour d'une passion commune PowerShell et ça marche plutôt bien. Il y a plutôt une bonne émulation. Les meet-ups passés, on a commencé avec l'analyse syntaxique de données. Ensuite, on a vu les classes, on a vu Git, on a vu Unity qui est un framework de modélisation 3D qui est utilisable avec PowerShell. On a vu Pester avec moi, c'était mercredi soir. D'ailleurs, donc voilà. Si vous voulez aller regarder un peu plus près, voir, réécouter les différents meetups qu'il y a eu, on a un site web. C'est frpsug.github.io sur lequel vous allez pouvoir retrouver un peu tous les anciens meet-ups passés avec des enregistrements vidéo ainsi que les présentations PowerPoint et bien évidemment tout ce qui est démo pour pouvoir vous entraîner, pour pouvoir aller regarder ça de plus près et vous inscrire au meet-up suivant pour en apprendre un peu plus et pourquoi pas. Allez présenter quelque chose aussi de votre côté, quoi. On est preneur, on accompagne les gens qui veulent se lancer dans cette aventure-là. On les aide à la création des slides, on leur fait des dry runs pour qu'ils puissent rejouer une première fois la présentation et qu'on les conseille sur les choses qui ont été et les choses qui ont été un peu moins bonnes. Et voilà, quoi. On est une bonne bande de potes, on se marre bien. Faut pas hésiter à nous rejoindre sur le Slack. Parce que plus on sera nombreux, plus on va émuler et plus on va réussir à pousser vers le but quand même qui est pas avoué mais qui est voulu en tout cas, c'est de faire quelque chose d'une journée sur Paris courant 2017. Et donc si on voit que ça accroche bien sur les meet-up online, ça sera beaucoup plus simple d'aller chercher une salle, des sponsors et se faire un truc assez sympa et de haut niveau technique en plus d'une track débutant pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de cohérent et de complet sur Paris.
Tu peux nous donner quelques titres de meet-up que vous avez fait? À
Ouais, bien
titre
sûr, ouais.
d'exemple?
Ouais, bah moi j'en ai joué un mercredi, tu vois, ça s'appelle Tester vos scripts et infrastructures avec Pester. Pester, c'est un framework de test unitaire en PowerShell, donc on est vraiment sur le côté DevOps. On a des choses, hein, des choses sur le monitoring avec PowerShell et Unity, qui a été joué par Mickey Baladelli, qui a un PowerShell MVP aussi. Donc là, c'est plutôt de la modélisation d'événements dans un environnement 3D avec des choses assez sympas. C'est compliqué d'expliquer ce que c'est Unity, mais en gros, ça sert à faire des jeux, ça sert à faire à plein de choses. Et il y a un mec qui a développé un module PowerShell pour monitorer sa boîte avec ce truc-là, quoi. C'est
D'accord.
assez bluffant, quoi.
On utilise aussi
On a eu un
Unity
atout.
pour faire des scènes 3D pour HoloLens.
D'accord, bah je savais même pas, tu vois.
Donc,
C'est vraiment un truc puissant, quoi.
Ouais.
On peut faire des choses de dingue avec ça, bah, notamment HoloLens. On a fait un atelier sur Git aussi et Visual Studio Code avec Louis Lejuez qui a. Alors là, c'était sur un format un peu plus court de présentation avant vendredi soir sur comment utiliser Git avec Visual Studio Code et PowerShell. Voilà, faire sa gestion de source, sa gestion de version, qu'est-ce que c'est un commit, qu'est-ce que c'est un push, qu'est-ce que c'est un pull. Enfin, c'est des choses pas forcément natives pour nous, les IT pro, quoi, mais voilà, il est bon de s'y mettre et adopter les bonnes règles qu'on trouve chez nos amis les développeurs. Ensuite, le meetup précédent, c'était un meetup sur les classes PowerShell avec la V5 qui permettent de faire plutôt du développement que du scripting, montrer ses propres objets avec ses propres méthodes, qui a été présenté par un Suisse, Stéphane Vengulic, un Français travaillant et habitant en Suisse. Et le premier meetup, donc ça a été un meetup intitulé Analyse syntaxique des données. Qui a été joué par François-Xavier Katt, sur tout ce qui est expression régulière, format string, etc., etc. Enfin, tout ce qui est un peu compliqué à comprendre et à mettre en pratique pour modéliser pour parser des fichiers texte et les modéliser en objet de manière très simple. Voilà, c'est ce qu'on a été joué depuis le mois de septembre. Donc, ça fait un beau volume de données à ingurgiter pour ceux qui ont participé au meet-up et ceux qui ont regardé les vidéos après. Et le but, c'est de ne pas perdre le rythme, en fait. Parce que les meet-ups suivants qui arrivent sont assez très sympathiques. Il y en a un qui va être sur les Windows conteneurs. Comment administrer les conteneurs sur Windows avec PowerShell, ça peut être assez cool à mon avis. Il y en a un autre qui alors là rentre totalement dans les sujets DevOps, Infras, Code, qui va être joué par un Français qui s'appelle Gaël Colas, qui habite en Angleterre et qui est hyper bon dans tout ce qui est Infras, Code. Donc ça s'appelle DSC plus Test Kitchen. Et là, je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Donc DSC, donc là c'est l'infra as code par Microsoft avec du déclaratif et du PowerShell. Et Test Kitchen, en fait, ça permet de monter les environnements à la volée et d'aller jouer justement des tests testeurs pour DSC de manière très simple et reconductible assez facilement dans des VM en local. Ou sur Azure, ou sur AWS, ou sur un peu tout ce qu'on veut, du moment que c'est il y a un. Il y a un plugin Vagrant pour ça. Et après, on a deux meetups. Alors, les thèmes n'ont pas été annoncés, mais qui vont être joués par Stinge Kalbot, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est un néerlandais, mais francophone, au mois de mars. Et Carlo Mancini, notre italien préféré, qui va nous jouer un autre meetup au mois d'avril. Celui-là, à mon avis, ça va être marrant. Connaissant le mec, on va bien rigoler. Voilà un peu l'actualité du French PowerShell User Group. Je sais qu'il y a des gens de cette communauté-là qui sont plutôt parisiens, qui sont en train d'essayer de monter quelque chose aussi d'assez récurrent en physique sur Paris. J'ai pas trop d'informations là-dessus, mais je pourrais peut-être faire passer un message quand ils seront plus avancés dans le choix de leur lieu, par exemple, et de leur planning.
D'accord. Grosse actualité alors pour 2017.
Ouais, on est assez content et ça est en train de bien s'émuler, ouais. Ouais. Je pense qu'on va arriver à. On n'arrivera pas au niveau des Américains sur les communautés PowerShell, c'est clairement. Mais il y a une volonté et c'est un produit qui est présent partout maintenant dans l'univers Microsoft. Et il y a de plus en plus de gens qui soit par volonté, soit qui sont poussés, mais qui sont obligés d'y aller, quoi. Et donc je pense qu'il y a un besoin aussi de ce côté-là d'avoir des informations, des billes. Technique sur les différentes possibilités qui sont offertes par PowerShell.
Est-ce que vous avez déjà parlé de PowerShell Core open source sur Linux?
Non, mais t'es le bienvenu pour en parler, Pascal, si tu veux.
Bah, c'est quelque chose à préparer, ouais. Ok, je le note. Je le note et il faut préparer une démo pertinente, quoi. C'est ça qui va être le plus chaud,
Bah
quoi.
ouais.
Mais ouais.
Ah bah ouais, bien sûr. Ouais.
Depuis que c'est open source, c'est que quand même les choses changent et c'est assez génial. Ouais.
Bah ouais.
Ce qui est bon, c'est la
Le
symétrie qu'on a mise en fait, qu'on a mise en place entre le fait de faire du PowerShell sur Linux et puis le fait de faire du Bash sous Windows. On peut faire les deux maintenant, donc on a vraiment le choix.
Ouais, et maintenant tu peux même faire du WinRM de Linux vers Windows et de Windows vers Linux avec une authentification basique. C'est sorti hier, je crois.
Oh.
C'est hier. Ouais. Donc pas mal.
Excellent.
Il y a WinSSH qui arrive aussi là, qui est
Le portage
bon, pour l'instant qui
d'OpenSSH.
laisse tout passer en clair, mais on a bon espoir qu'un jour ça soit aussi puissant et safe que sur Linux, quoi. Ça va. C'est cool, enfin on va pouvoir administrer des environnements hétérogènes de manière identique. Et ça va nous faire gagner un temps de dingue en fait.
Est-ce que tu parles toujours de tout ça sur ton blog PowerShell.net?
Oui, alors un peu moins récemment quand même, faut l'avouer. Pas mal été pris par le boulot et par divers trucs à côté. Je suis gentiment mais doucement en train de glisser vers tout ce qui est conteneur quand même sur mon blog. Parce que c'est ce que je fais pour mes clients, donc c'est ce que je blogue. Mais ouais, j'essaie de me maintenir actif. Alors, tu vois, là, les derniers posts, c'est sur Kubernetes et Docker Data Center, pour être
Ok.
très clair. Mais ouais, ça m'empêche pas de faire toujours du PowerShell derrière de manière intensive. De toute façon.
Donc cette semaine, j'étais avec beaucoup, mercredi soir, un autre événement qui nous a empêchés de t'écouter en direct parler de Pester. Donc heureusement que c'est enregistré. On était au meet-up commun entre Docker Paris et la communauté AzugFR. Chez Celenza à Paris,
Ouais,
qui
j'ai vu
était
les photos.
voilà avec Julien qui parlait des containers Windows. Donc voilà, heureusement que vous enregistrez vos meet-up online pour qu'on puisse les réécouter après. C'est sympa ça.
Bah, c'est la facilité qu'on a avec Skype for Business, quoi. Ça permet justement assez simplement d'aller publier à la suite sans investir dans une caméra, enfin tout ce qu'on peut avoir à faire pour faire des meet-ups physiques et les enregistrer, c'est pas le même budget, quoi. Donc on en profite, quoi. On en profite fortement. Puis si on peut gagner de la thune avec YouTube après, on peut bien nos vidéos.
C'est combien de millions de vues pour gagner de la thune?
crois que c'est 1 million.
Allez, challenge accepted.
Ouais, on se revoit en 2025 pour en parler.
Ça marche. Bon.
Alors Pascal, toi t'as un sujet DevOps aussi à nous parler?
Ouais, tout à fait, parce que je suis évangéliste DevOps cette année. Vous savez que chaque année, notre activité change un petit peu dans notre division DX chez Microsoft. Et cette année, je fais plutôt du DevOps. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai fait une petite action, un petit projet avec nos amis d'Accenture, qui ont une plateforme qui s'appelle ADOP. ADOP voulant dire Accenture DevOps Platform. Et c'est une plateforme qui contient l'ensemble des produits qu'on peut imaginer en open source dans le monde du DevOps. Donc oui, comme outil open source, on trouve les outils qu'on trouve habituellement dans ces chaînes, ces pipelines DevOps open source. Donc il y a sa part de Jenkins, il y a du SonarQube, du Logstash, Kibana et Elastic, la fameuse suite ELK. Ça utilise évidemment Docker pour exécuter tout ça. Il y a du Nexus, du Chef pour l'automatisation, il y a du Git évidemment. Du Jira également, et d'autres que je ne rappelle pas de tête. Mais il y en a pas mal. Et alors la difficulté avec ce genre de pipeline DevOps, de pipeline d'intégration continue et release management, etc., open source, c'est que c'est très long et complexe à installer ce genre d'environnement. Quand on part de rien, installer ce genre de pipeline, ça met des jours et des jours, quoi.
Ouais, ça dépend. Si tu prends Docker, ça va très vite.
Voilà, mais ça se prépare quand même, ça se fait pas en 5 minutes. Là,
Non, c'est clair.
voilà. Je sais pas, tu as peut-être déjà fait, Fabien. Hein.
Ah oui, je connais, on l'a déjà monté chez les clients. Effectivement, c'est pas. Chaque projet a ses particularités en plus, donc ça demande, oui. Ça demande de la configuration.
Donc là, comme Accenture fait pas mal de formations, qu'elles soient internes ou externes, et puis de projets avec des clients, ils ont développé cet environnement complet qui s'appelle Adop, et ils l'ont mis en open source sur GitHub. Donc c'est disponible pour tout le monde, hein, vous pouvez le télécharger. Alors ils en ont plusieurs versions, enfin ils en ont une version open source qu'on peut récupérer sur GitHub, et puis ils ont aussi des versions sous forme de SaaS, sous forme déjà hostée, quoi, que leurs clients peuvent utiliser également. Donc ils l'utilisent soit pour des formations où le participant à la formation vient, lance un script et ça lui installe automatiquement son environnement, soit sur un environnement Docker existant au local, soit sur un cloud, en l'occurrence c'était AWS, le cloud, soit ils l'utilisent également pour des clients qui veulent mettre en place un environnement DevOps pour des vrais projets, pour des vraies applications qui démarrent chez ce client. Donc là, ce qu'on leur a proposé, c'est de prendre ce qu'ils faisaient, les méthodes qu'ils utilisaient pour déployer cet environnement Adop de façon automatisée, et de faire la même chose vers Azure, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'ils le fassent que dans AWS, quoi. Donc ça a été assez simple à faire, hein. On a travaillé ensemble avec les gens d'Accenture, donc c'est plutôt sympa. On a pris la méthode qu'ils utilisaient classiquement pour leurs étudiants, enfin pour le développement très rapide. En fait, ils avaient un gros script, un shell script, qui s'exécute soit sur un Mac, soit sur un Linux, enfin tout ce qui exécute un bash, en gros. Ça peut même marcher, je pense, sur le bash de Windows 10, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis, ça prend les paramètres qu'on lui donne, et ça va créer l'environnement grâce à Docker Machine. Donc, Docker Machine, c'est un truc un petit peu ancien de chez Docker, hein, qui permet de créer une machine virtuelle quelque part. Donc ça peut être soit en local, soit à distance, dans un cloud, avec un driver spécifique pour le cloud sur lequel on veut déployer cette machine virtuelle. Ça déploie sur la VM le Docker Engine, le moteur Docker, et puis ensuite, ça se connecte à ce moteur Docker à distance, avec la manip habituelle de la variable d'environnement Docker host pour se connecter à distance, et puis on va déployer nos containers à distance. Donc le script, il faisait ça en gros, un Docker machine, et puis un Docker compose up, une fois connecté à la VM distante, au Docker Engine distant. Donc ce qu'il a fallu que je fasse, c'est simplement adapter les paramètres pour avoir des paramètres spécifiques à Azure, par exemple choisir le data center d'Azure, West Europe, North Europe, etc., choisir un nom pour le resource group dans lequel on allait déployer la VM, et puis voilà, quoi. En gros, utiliser le driver Azure de Docker Machine pour faire le déploiement. Et tout le reste marchait tout seul avec le Docker Compose Up, etc. Donc voilà, ça c'est une première chose. Comme c'est de l'open source dans GitHub, etc., il ne me reste plus qu'une chose à faire avec eux, c'est faire le pull request pour qu'ils l'intègrent. Et donc ils ajoutent l'option Azure officiellement dans leur version.
C'est ce que j'allais dire, que j'étais en train de regarder leur GitHub du coup pendant que tu expliquais les tâches que tu as fait dessus, et je voyais pas encore de mention d'Azure en fait dans les possibilités, quoi.
Voilà, donc si tu regardes sur mon GitHub, c'est pascales-msft, avec il y a le fork que j'ai fait dessus et il y a la modif sur le quickstart.sh. Ensuite, j'ai fait une deuxième méthode quand même plus propre à Azure quand même, qui consiste à utiliser un template ARM pour faire ce déploiement, qui est quand même plus souple, parce que le gros inconvénient de Docker Machine, c'est qu'il nous oblige à se connecter à distance au moteur Docker le temps de faire le Docker Compose, et donc ça nous oblige à rester un gros quart d'heure, voire plus, avec une connexion qui ne doit vraiment pas tomber, sinon la procédure part un petit peu en sucette, quoi. Donc je préfère quand même utiliser un template ARM qui est plus natif à l'environnement Azure, qui va permettre également d'être plus souple au niveau de sur quoi on va déployer notre template, hein. Donc gérer plusieurs environnements de façon paramétrée, etc. Donc j'ai fait le template ARM, je me suis inspiré d'un truc existant et puis je l'ai adapté à nos besoins. Simplement, alors ça déploie une VM Linux, en gros, ça déploie l'extension, la VM extension Docker, et puis une VM extension de type custom script pour lancer un script qui va faire toute la manip, c'est-à-dire récupérer Docker Compose, récupérer avec un git clone toutes les sources de Accenture, et puis lancer le script qui va bien pour faire le Docker Compose, quoi. Pour monter la vingtaine de containers qui constituent la solution.
Et du coup, leur solution, ils ont une interface graphique et tout, après, pour aller choisir les différents outils qu'on veut dans leur espèce de passe.
Tout à fait.
Quoi, en fait.
Tout à fait. Une fois que c'est installé, tu te connectes à l'adresse IP publique de la VM et tu as une interface avec l'ensemble des outils sur une page, sur un frontal, quoi, sur un portail. Tu cliques sur Jenkins et tu vas gérer ton pipeline Jenkins directement. Quoi. Donc par défaut, ils mettent un projet de test qui est une pet clinique, là, une clinique vétérinaire, en Java. Donc c'est que de l'open source et du Java pour l'instant, hein, mais ils ont un système de ce qu'ils appellent des cartridges, des cartouches qui permettent de façon modulaire d'adapter, enfin d'ajouter des composants si jamais ton projet, ben, c'est pas du Java, c'est autre chose, ben, tu rajouteras la cartridge correspondante pour gérer ton projet. Quoi.
D'accord, ok. Bon, pour l'instant, on reste que sur des projets qui tournent sur des Linux, bien évidemment, mais ils ont prévu de passer sur des conteneurs Windows aussi, et du coup d'avoir des slaves ou des master Jenkins Windows pour pouvoir faire la même chose, mais à côté Microsoft. Quoi.
Alors, pas encore.
Avec .NET ou du PowerShell. Non, pas encore.
Okay. Pas encore, mais on en parlera à l'occasion. Ouais. Pour l'instant, non, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est que des technologies open source et Linux, mais l'important, c'est que ça marche dans Azure. C'est qu'ils puissent le mettre dans Azure. Alors, depuis qu'on a fait ça, c'était début octobre, hein, la première conférence TIAD sur laquelle on a parlé de ça. Donc, début octobre, on était prêt.
Ah oui, c'est celle qui était pendant la MS Experience, c'est ça?
C'était le premier jour, pendant le premier jour, oui. Ouais. C'était le 4 octobre. TIAD, ça veut dire The Incredible Automation Day. Et donc depuis ce jour-là, ils ont eu des clients qui sont des clients Azure en même temps que d'être des clients Accenture, qui leur ont demandé de déployer ça dans Azure. Quoi. Donc, ils ont déjà présenté et mis en production des instances d'Adop dans Azure.
Cool.
Donc ça donne un choix supplémentaire au client, donc voilà, c'était le but de l'opération.
Ouais, bon, je pense que de toute façon l'adoption d'Azure en France va être de plus en plus forte quand les data centers seront disponibles chez nous, quoi, en France.
Ah, en plus, oui, bien sûr.
En parlant de data center, vous avez fait un petit peu mumuse avec le data center allemand ou pas?
Non,
pas du
j'ai
tout.
J'ai pas le temps.
D'accord.
Pas l'envie qu'il m'en manque, mais.
C'est vraiment une infrastructure complètement séparée du reste, hein, de ce que j'ai pu voir en tout cas, notamment sur la partie directory. On est vraiment sur du onmicrosoft.de par exemple, donc on a vraiment une organisation Azure.
C'est un peu le concept du la plaque chinoise en fait, quoi. C'est-à-dire que t'es vraiment séparé. C'est des services complètement différents en fait. T'attaques ça avec un module PowerShell spécifique.
C'est ça, voilà. Par exemple, quand on se connecte à Azure AD, il faut spécifier le paramètre Azure Cloud Germany, je crois, ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, ouais. J'avais lu ça, ouais. Et sinon, en termes de services, tu retrouves les mêmes choses sur le data center allemand ou
Il n'y a pas tant de documentation que ça, ni de communication officielle, mais donc j'ai pas eu le temps de trop regarder. Mais pour la partie Azure Active Directory, en tout cas, il faut recréer un tenant de zéro. Donc pas de réplication. D'accord. Avec le tenant. Si vous voulez vous connecter à une autre subscription Azure, il faut faire du VPN, donc c'est vraiment quelque chose de complètement séparé. Pas de peering, rien quoi.
Ok, d'accord. Alors, je vais poser une question totalement noob, hein, mais par exemple, si toi tu es une entreprise qui est basée en France, qui a déjà un tenant, et du coup tu fais de la DFS pour avoir tes comptes sur ton Azure Active Directory actuel, est-ce que tu peux synchroniser aussi du coup avec ADFS sur entre avec les deux pour pouvoir déployer des services sur le data center allemand ou
Pas si tu utilises le même domaine, parce que ça c'est comme dans Office 365, tu peux avoir qu'un seul domaine public par tenant, donc tu pourras pas le rajouter des deux côtés quoi.
Ok, c'est bon à savoir.
Ok, écoutez, on arrive au terme de notre épisode. Un dernier mot? Non?
Bah merci. Merci
Joyeux
à
Noël.
Pascal.
Oui,
Ouais, merci de m'avoir invité. Merci
ouais,
de m'avoir
Fabien,
invité,
ben
vous deux.
on se reverra pas avant janvier, effectivement, je pense. Donc
Ouais,
on va
on va
passer des
souhaiter
bonnes
à tout le
fêtes.
monde de bonnes fêtes. Vous partez un petit peu pour les vacances là, pour les fêtes?
Ouais, dans ma belle famille.
Ouais.
Ouais, dans ma famille à Grenoble pour moi,
Ah
donc
bah super.
j'espère pouvoir skier aussi.
Je refais mon grenier pendant les fêtes, donc ça va être des bonnes vacances.
Ah oui, des vacances travaux alors.
Ouais.
Bricolage. Bah écoute, bonne fête. On se
Ouais,
retrouve
bonne
en
fête tous les deux.
janvier. Maxime, je sais pas si on a fixé une date. On n'a pas fixé une date,
Non,
on
on
la
n'a pas encore
fixera.
fixé une date, mais je pense que ce sera début janvier, mi-janvier, quelque chose comme ça.
Bah, c'est simple, hein, ça va être un vendredi et ça sera soit le 6, soit le 13.
Ok, bah je te
Ouh!
laisse le choix.
Vendredi 13, est-ce bien raisonnable?
Ah oui, effectivement, oui, j'avais pas noté ce point.
Ça porte chance.
Ouais. Ok.
Le loto, ils le disent en tout cas.
Bon, on fera ça le jour du loto, peut-être alors. Ok, ben, merci Maxime, à très bientôt. Merci Fabien,
Ouais, merci à
j'espère.
vous. Ouais.
À
Merci à
bientôt.
vous et puis oui, à très bientôt pour un autre ITcast.
La prochaine. Éclatez-vous bien pendant les fêtes, profitez bien de vos familles, tout ça, machin. Et j'espère vous avoir des beaux cadeaux.
Exactement, à bientôt.
Ouais, salut.
Merci à tous.
Merci, ciao.